D'un siècle à l'autre, de révolution en révolte, passé, présent, futur, itinérance du vocabulaire, persistance des faits et parfois des doléances, encore faut-il faire parler l'histoire.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Pascal Paradou.
Des sans-culottes aux gilets jaunes, Mona Ouzou fait partie de ces historiens, historiennes, qui jamais n'écrivent pour dire le passé, mais davantage pour éclairer le présent. Bonjour Mona Ouzou.
Bonjour.
Votre œuvre est immense, vous êtes en France l'une des grandes spécialistes de la Révolution française, il suffit de citer quelques titres. La fête révolutionnaire, publiée dans les années 70, le dictionnaire critique de la Révolution française avec François Furet dans les années 90, Varenne, la mort de la royauté en 2006 sur la fuite de Louis XVI, ou encore de Révolution en République, les chemins de la France en 2015. Est-ce à dire qu'il y aurait une descendance politique de 1789, donc la Révolution française?
Voulez-vous dire une descendance politique de la Révolution française au temps présent?
Au temps présent.
Alors, pour le temps présent, j'ai envie de répondre oui et non. Oui, bien sûr, dans la mesure où la revendication actuelle, la récrimination actuelle, la doléance actuelle, recoupe des thèmes et des termes qui sont ceux de la Révolution française. Commençons par les thèmes, si vous voulez. Les thèmes, il y en a un qui saute aux yeux immédiatement et qui est la défiance à l'égard de la représentation. Et la question tout à fait compliquée de savoir comment on va pouvoir faire qu'entre représentants et représentés ne s'établisse pas un écart maléfique, tel que les représentés se disent qu'ils sont trahis par les représentants et que de leur côté les représentants se disent qu'ils sont l'objet de la vindicte des représentés. Le problème naît immédiatement à l'aube de la Révolution française. Il naît comment? Parce que les délégués des États généraux qui arrivent à Versailles au printemps 89 renoncent très vite, et ça c'est un gros problème de la Révolution française, à représenter les intérêts de leur paroisse, de leur bailliage, qui sont parfois des choses très locales, très menues, pour se dire Assemblée nationale, c'est-à-dire représentant de la nation tout entière et pas seulement des gens de telle ou telle commune qui voudraient ouvrir un chemin vicinal ici ou lutter contre le droit de chasse du seigneur là ou que sais-je.
Ils inventent la nation d'une certaine
Oui, ils inventent la nation et ils inventent la mort du mandat impératif. Le mandat impératif, c'est la nécessité qui est faite aux délégués qui arrivent à Versailles d'être porteurs de la récrimination locale. Rien que là-dedans, qui est un phénomène absolument inaugural dans la Révolution française, tient le problème de la représentation auquel nous sommes toujours affrontés.
Il y a cette idée de nation qui naît à ce moment-là, on reviendra peut-être là-dessus parce qu'il y a plusieurs temps possibles quant à la naissance de l'idée de nation,
bien
ou
sûr,
du sentiment national, comme vous l'écrivez dans votre livre. Il y a ce mot de nation, mais il y a aussi les mots de la devise républicaine, liberté, oui, égalité, fraternité. On vit dans ces mots-là, qui ont été forgés pendant la Révolution, ou en tout cas dans le désir de ces mots.
Oui, et non seulement dans le désir de ces mots, mais dans les problèmes énormes qu'ils lèguent. Pourquoi ? Parce que, prenons égalité, la nature et l'histoire sèment à tout vent et partout les inégalités, et que donc apparaît tout de suite immense le problème de la dénivellation entre l'égalité proclamée et l'égalité réelle, dans laquelle vont s'engouffrer toutes les revendications qui vont suivre, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sexuelles même, en songeant aux droits des femmes.
Ce qui est magnifique dans le livre qui vient de sortir, Mona Ouzouf, intitulé « Portrait d'une historienne », qui est un livre d'entretien, c'est pas un essai, c'est que vous ne faites pas de raccourcis entre le passé et le présent, mais vous apportez au contraire de la complexité, et je crois que vous aimez par-dessus tout un mot qui est le mot non pas de penser, mais de repenser l'histoire.
Oui, en réalité, c'est peut-être l'un de mes commentateurs généreux dans ce livre, Antoine de Beck, ou je ne sais plus lequel d'ailleurs, qui dit cela, ou peut-être Keith Baker, l'Américain, qui dit que je repense plus que je ne pense. En fait, moi je ne vois pas très bien la différence, parce que de toute manière, pour un historien, penser c'est forcément repenser. C'est revisiter les siècles passés. Alors ça ne veut pas dire qu'on oublie le présent, bien sûr, mais ça veut dire quand même qu'on revient en arrière, qu'on révise. Et finalement, lorsque certains historiens accusent certaines catégories d'autres d'historiens révisionnistes, ce qui nous est arrivé à François Furet et à moi, à propos de la Révolution, on peut répondre que toute histoire est révisionniste. Par essence, dans la mesure même où elle est une discipline ouverte et où à chaque instant peut surgir une interprétation qui révise l'interprétation ancienne.
Comment la jeune femme que vous étiez, bretonne d'origine, agrégée de philosophie, prof dans un lycée de Caen, fascinée comme tous les intellectuels de votre génération par le Parti communiste, devient-elle une historienne de la Révolution française ?
Oui, il y a un peu une série de hasards là-dedans. Il y a quelque chose, vous avez raison d'employer le mot jeune femme, parce qu'il y a quelque chose de juvénile dans ce projet d'étudier la Révolution française, parce qu'après tout, les hommes de la Révolution française, j'ai envie de dire que ils partent dans la vie d'un pas matinal, avec le sentiment qu'un monde absolument neuf s'ouvrent devant eux et qu'ils vont aussi créer une humanité renouvelée. Ils vont redécouper le temps, ils sont les auteurs d'un calendrier nouveau, ils vont redécouper l'espace et tâcher d'imaginer un urbanisme rationnel, et ils vont même, pense-t-il, c'est probablement le souhait le plus ambitieux et aussi le plus maléfique probablement, ils veulent même changer l'homme. Et l'homme nouveau est un de leurs thèmes.
Et dans les années 50-60, le communisme, c'est un peu le même projet. Et la jeunesse des années 50-60, on pense à mai 68, a aussi éventuellement ce désir d'un nouveau monde.
Il y a ça, et il y a aussi un phénomène de génération. Parce que nous sommes une génération qui sort de la guerre avec presque le remords de n'y avoir pas participé, parce que nous étions pendant la guerre enfants. Qui sort de la guerre avec l'idée que nos aînés immédiats ont eu la possibilité, eux, de faire des actions héroïques, dont probablement nous nous sentions obscurément incapables. Et il y a beaucoup d'expiation dans le choix de l'engagement extrémiste.
Dans le choix de la Révolution française, parce que vous avez choisi de travailler sur cette période, Mona Ouzouf, est-ce qu'il y a aussi le goût de la littérature ? Parce que on sait le goût et la sensibilité que vous avez pour les mots, pour la littérature. Vous faites partie du jury du prix Femina, vous avez publié un essai intitulé La cause des livres, et vous avez obtenu en 2015 le grand prix de la langue française. Donc est-ce que finalement la littérature du XVIIIe siècle n'a pas été aussi pour vous un déclic et un désir ? Travailler sur cette littérature-là, puisque l'histoire se sont des mots.
Oui, mais à l'époque, je crois que je n'en ai pas du tout conscience et qu'en fait, mon choix de l'histoire tient beaucoup au hasard et aussi à la structure des études universitaires en France. Évidemment, c'est assez prosaïque comme choix, mais ça existe beaucoup pour des jeunes gens de faire des choix. Or, pour moi, effectivement, je pense que dès l'origine, la littérature est sûrement la chose qui m'intéresse le plus. Mais il se trouve que j'ai fait de mauvaises études de langues anciennes dans mon obscur collège breton, que j'ai un niveau tout à fait insuffisant pour passer une agrégation de lettres classiques. Je sais que c'est très compliqué. Et donc, les deux disciplines qui m'intéressent par ailleurs, c'est la philosophie et l'histoire. Et je navigue un peu entre les deux. Et je ne crois pas que le goût de la littérature ait beaucoup compté dans mon choix de la Révolution. Ce qui a plus compté, je pense, c'est cette espèce d'atmosphère d'une génération qui voit le monde s'ouvrir. Ma génération a eu beaucoup de chance. Alors que les jeunes gens d'aujourd'hui sont tellement incertains de la vie qu'ils vont mener, du métier qu'ils auront, de l'avenir, pour des raisons évidentes, il suffit de songer à l'écologie. Ma génération entrait dans un monde qui savait que le mal existait, que le malheur existait, mais que tout était ouvert devant elle.
Mona Ozouf de Drouet, le soldat qui reconnaît Louis XVI à Varennes, à Drouet, Éric Drouet, le chauffeur routier, l'une des figures des plus médiatiques des Gilets jaunes. Nous allons poursuivre notre conversation après avoir écouté Bertille.
Il y a du vent dans les voiles, le monde bouge et c'est tant mieux. Il pourrait bientôt, c'est normal, ce vent caresser des cheveux. Il y a du vent dans les voiles, le monde a changé corps et âme. Tous les pays ont leur mistral, un vent de mèche avec les femmes. Il y a du vent dans les voiles, quand j'ai mes soleils intérieurs. Je suis heureuse et ça se voit, le rose aux joues, c'est du bonheur. Si je suis lasse même de parler devant la bêtise ordinaire, elles traduisent mes lèvres serrées, tous les gros mots du dictionnaire. Il y a du vent dans les voiles, le monde bouge et c'est tant mieux. Il pourrait bientôt, c'est normal, ce vent caresser des cheveux. Il y a du vent dans les voiles, le monde a changé corps et âme. Tous les pays ont leur mistral, un vent de mèche avec les femmes. Il y a du vent dans les voiles, j'ai parfois des regards moqueurs. Et ça se voit là dans l'eau de mes yeux rieurs. Je t'ai parfois dit des mensonges que j'avais connus mille amants. S'il est vrai que le nez s'allonge, je veux que tu saches quand je mens. Il y a du vent dans les voiles, le monde bouge et c'est tant mieux. Il pourrait bientôt, c'est normal, ce vent caresser des cheveux. Il y a du vent dans les voiles, le monde a changé corps et âme. Tous les pays ont leur mistral, un vent de mèche avec les femmes.
Du vent dans les voiles, Bertille sur RFI, extrait de son nouvel album, premier album homonyme, éponyme. Mona Ozouf est aujourd'hui notre invitée à l'occasion de la sortie d'un livre d'entretien intitulé « Portrait d'une historienne ». La Révolution française et l'école républicaine ont été les deux grands thèmes de votre recherche. Le lien étant toujours d'ailleurs la question du collectif. Comment fabrique-t-on du collectif ? Et en posant cette question, on voit bien l'aspect brûlant de cette question encore aujourd'hui.
Oui, c'est toujours la question de savoir ce qui nous autorise à utiliser d'un « nous » est évidemment fondamental. C'est du reste ce qui fait que je ne suis pas tout à fait entrée dans les critiques qui ont accablé Nicolas Sarkozy quand il a décidé ce débat sur l'identité française, qui a été diabolisé, qui avait beaucoup de il y avait des raisons de contester la manière dont la chose a été menée. Mais sur l'ambition, moi j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas diaboliser l'entreprise. Ça reste intéressant de savoir pourquoi nous pouvons nous dire, nous autres Français, ou du reste, à une échelle plus menue, nous autres Bretons, par exemple. Donc je crois que ça, c'est un problème qui continue d'être tout à fait intéressant.
Vous dites que nous vivons dans une société de solitaires méfiants. Oui. Ce qui s'est passé là ces derniers mois avec les Gilets jaunes, est-ce que vous le voyez comme un mouvement du « nous » ou comme une addition de revendications individuelles ?
Non, je pense que c'est un mouvement de revendications individuelles et je pense, c'est là la grande différence avec la Révolution française. Et c'est pourquoi, bien que les thèmes, comme je l'ai dit, et aussi les termes, guillotine, etc., sont présents dans les deux mouvements, c'est pourquoi je pense qu'il y a quand même une différence fondamentale, c'est que les hommes de la Révolution partaient dans cette aventure avec des idées et des rêves, d'avenir. Or, je ne vois pas beaucoup ces rêves d'avenir et ces idées d'avenir dans les revendications des Gilets jaunes. Je les vois plutôt habitées par la défiance et le ressentiment.
Mona Ozouf, parole de rue en 2019.
Quand on voit vraiment nos dirigeants, on a le privilège de payer des costumes à 45 000 euros. Parce que les 45 000 euros, ça fait des salaires de 3 personnes par an. Mais on a de quoi vraiment se révolter.
On est étranglés de taxes. Et on a marre de ces injustices sociales. On donne toujours aux plus riches et on prend toujours à la classe moyenne et à la classe pauvre. Ça ne peut pas continuer.
C'est de l'enfumage. Le débat national, c'est de l'enfumage.
J'appelle tout le monde à rejoindre le mouvement populaire qui, j'espère, sera un mouvement de révolution. Et dans révolution, il y a rêve. Il ne faut pas voir que la violence du gouvernement. Il faut voir que la société d'aujourd'hui, cette société capitaliste, plus personne n'en veut plus. Tout le monde la critique.
Mona Ozouf, si on croit cette manifestante, il y a donc rêve dans Révolution. Donc ils ont des rêves, les Gilets jaunes.
Oui, enfin, ce sont des rêves d'immédiateté. Et c'est ça aussi ce qui me frappe, c'est que ce ne sont pas des... Il n'y a aucune construction à long terme, il y a une sorte de revendication de dégagisme immédiat. C'est-à-dire, c'est Macron démission, c'est dissolution de l'Assemblée. Avec quelque chose quand même qui est extraordinairement frappant, c'est de faire porter sur un seul homme la responsabilité de tous les maux absolument évidents et de toutes les frustrations également évidentes du mouvement.
Mais en 1789, les révolutionnaires disaient pas « à mort Louis XVI, à
pas
mort le roi »
Pas du tout, Louis XVI faisait partie de leur projet. C'est plus tard que c'est venu, mais en 1789, Louis XVI est le roi des Français. La nation, la loi, le roi, voilà la trilogie de 89. C'est pas encore liberté, égalité, fraternité ou la mort, comme en 93. C'est, la nation, la loi, le roi. Non, on est très loin de ça dans la vindicte personnelle, dans la haine personnelle, qui quand même est quelque chose de frappant dans ce mouvement, et c'est pourquoi j'ai dit que c'était une foule solitaire, oui.
Le grand débat voulu par Emmanuel Macron, quand même, ressemble plus ou moins à ce qui s'est passé au printemps 1789, où les Français ont rédigé leur cahier de doléances.
Oui, à ceci près que dans les assemblées qui rédigeaient les cahiers de doléances, il n'y avait pas trace de méfiance à l'égard de celui qui, parce qu'il était plus éclairé que les autres, parce qu'il parlait français, alors que les autres parlaient provençal, breton, flamand ou breton, prenait la plume pour exprimer la doléance. La vindicte contre les élites était très loin d'atteindre l'acmé d'aujourd'hui.
Mais vous pensez que le président de la République a pensé à ces états généraux, au cahier de doléances de 1789, quand il annonce et propose le grand débat?
Ça, je n'en sais rien, il faudrait...
Vous n'avez pas trouvé des traces dans ces discours.
Il faudrait être dans la pensée d'Emmanuel Macron, mais je pense que dans l'esprit des Français, ça reste, ça fait écho. La Révolution française n'a pas disparu de l'imagination des Français, la preuve du reste.
Oui, c'est un référent toujours, un ciment et un référent.
Et par ailleurs, vous savez quel est l'auteur du RIC? Quelle est l'initiateur du RIC? Eh bien, c'est le marquis de Condorcet. C'est Condorcet qui, au début de la Révolution française, très conscient du fait qu'il va y avoir entre représentants et représentés cette difficulté d'existence commune, dit qu'il va falloir imaginer quelque chose, et cette imagination, bien, c'est le RIC. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen lambda pourra présenter à son assemblée communale une revendication quelconque qui sera examinée, qui remontera d'échelon en échelon jusqu'à l'Assemblée nationale pour être discutée, qui redescendra, se refaire ratifier à l'Assemblée primaire du canton. C'est exactement ça.
On a écouté, Mona Ozouf, il y a quelques minutes, les paroles de rue en 2019. Je vous propose d'écouter un cahier de doléances en 1789 cette fois.
Plaintes et doléances que les habitants de la paroisse de Méré-l'Évêque en Poitou adressent à Louis XVI, glorieusement régnant et tenant les états généraux à Versailles le 27 avril 1789. Nous ne vivons qu'au milieu des malheurs et des calamités. Les maux et les misères qui nous accablent sans cesse ont deux causes qui, n'étant point détruite, nous laisse nécessairement dans la dure position où nous nous sommes toujours trouvés et où nous avons toujours vécu jusqu'à ce jour. La première cause de nos malheurs est la mauvaise qualité, l'infertilité et l'insalubrité de notre pays. La seconde est l'énormité des impôts, leur multitude et la manière de les percevoir.
Parole de 1789, ceci est magnifiquement écrit et dit.
Bien sûr.
Madame Zoufia, une qualité d'écriture des cahiers de doléances assez spectaculaire quand on...
Il faut bien savoir qui tient la plume. Ce qui tient la plume, c'est le robin, l'officier de judicature, le personnage éclairé de la paroisse ou du bailliage. Et donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, celui qui tient la plume n'est pas l'objet de la méfiance immédiate des gens qui sont là et qui font confiance à celui qui a les mots pour le dire.
Mais quitte à être un peu réactionnaire, cette qualité d'écriture manque un peu aujourd'hui.
Ah non, mais attendez, c'est plus que ça. C'est que la trivialité voulue, la brutalité du vocabulaire utilisé, c'est ce qui est le plus inquiétant, je trouve, dans le langage revendicatif des Gilets jaunes. Pour des raisons qui, du reste, ont été parfaitement analysées, lorsque la révolution elle-même en vient à ces excès de trivialité, ce qui arrive aussi dans la Révolution française, pas au moment où des cahiers de doléances, mais plus tard, en 93. Donc, cette brutalité ont été immédiatement analysées comme prémonitoires d'une brutalité réelle qui s'habitue à un langage excessif, trivial, tueur, s'habitue aussi à la possibilité de tuer.
Vous le pensez ça vraiment, aujourd'hui?
Bah, je le pense complètement, je le pense parce que ça a été vérifié. C'est l'analyse déjà de Madame de Staël au sortir de la Révolution française, même pas au sortir, pendant la Révolution française. Et c'est une analyse qui a été pleinement justifiée par les analyses du langage du Troisième Reich. Il y a un livre magnifique, et le livre de Victor Klemperer qui analyse ce fait. La dégradation progressive des mots a amené une dégradation progressive des actes. C'est dit de façon magistrale. Donc c'est un danger permanent.
Et pourtant le mot de doléance est le même,
oui.
Sachant qu'il a lui-même un peu muté, oui. Puisqu'à l'origine le mot de doléance au XIVe siècle jusqu'au XVIIe veut dire le deuil, oui. la douleur, et devient une plainte finalement à ce moment, oui. De la Révolution française.
Oui, plainte et récrimination mêlées, ce qui est encore le cas aujourd'hui.
Ce livre, Portrait d'une historienne, Mona Ouzouf, est précédé d'un très court texte intitulé « Y a-t-il une crise du sentiment national ?» Et j'ai le sentiment, alors bien sûr la question est très très vaste et nous n'avons pas le temps, mais que d'une certaine façon vous dites oui, il y a une crise, mais ce sentiment n'est pas tout à fait mort.
Non, j'ai une conclusion irénique dans ce texte qui ne serait probablement pas la même deux ou trois ans après, ça fait deux ou trois ans que j'ai écrit ce texte. Enfin, je l'ai écrit très exactement au lendemain des attentats de 2015. Et dans la grande manifestation qui avait suivi les attentats de Charlie Hebdo, j'avais, c'est vrai, puisé des éléments de réconfort en ce qui concerne la possibilité précisément du nous collectif dont vous parliez tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'était la plus grande manifestation de notre histoire. Ce qui est énorme. Et d'autre part, parce que les motifs de cette mobilisation étaient le massacre d'une rédaction. Et donc, avait quelque chose à voir avec ce qui caractérise d'une certaine manière la France, qui est d'être une patrie littéraire, une patrie liée à sa littérature, plus qu'une autre, probablement. Et donc, j'avais pensé qu'il y avait là un sentiment d'espoir. Qui aujourd'hui est mis à mal précisément par ce goût du langage sans nuance, c'est-à-dire d'un langage non littéraire.
Mona Ouzouf, vous qui êtes si sensible à la langue française, vous avez notamment beaucoup parlé des patois, de la façon dont le français s'est structuré dans un de vos ouvrages, Compositions françaises. Que pensez-vous de l'idée de francophonie ?
J'ai d'abord envie de vous reprendre sur le terme patois qui me choque, parce que je serais...
Je m'adresse à une bretonne, mais bien sûr.
Je serais plus favorable à langue minoritaire ou à langue régionale. Le breton, le basque ne sont à aucun titre des patois.
Pardon.
Donc, déjà, la question me paraît un peu... Voilà, posée, il faut la nuancer. Et par ailleurs, je trouve votre question, que pensez-vous de la francophonie ? Pardonnez-moi, mais elle est trop générale pour que je vous donne une réponse. Donc, encore une fois, pourquoi, dans quel contexte, dans quel... Qu'est-ce que vous appelez francophonie ? Défense et illustration de la langue française.
C'est une version.
Bien sûr. Dans ce cas-là, ça nous ramène assez directement au problème de l'école, de l'apprentissage du langage, de la lecture, de la nécessité d'apprendre de beaux textes par cœur. Enfin, que sais-je ? Il y a mille et une questions connexes.
Si on parle de pureté de la langue,
non.
Sachant que les francophones ne sont plus français, ils ne parlent pas forcément le français de l'Académie française. Ils sont africains, ils sont haïtiens.
J'ai envie de dire que la pureté de la langue est parfois préservée par les groupes chez qui la langue française n'a pas coulé des lèvres maternelles. C'est tout à fait le cas en Bretagne, par exemple. On a le sentiment que les bretonnants ont une langue française qu'on peut dire pure parce qu'elle est plus livresque ou plus scolaire. En tout cas, il y a quelque chose dans le parler français des bretonnants de naissance qui est, oui, une langue d'une grande correction. On pourrait presque dire, parfois, d'une grande raideur aussi. Oh, c'est convenu. Livresque, si on veut. Voilà ce que j'aimerais répondre.
Je vous pose cette question parce que vous plaidez pour un compromis, ce que vous appelez une composition entre la culture d'origine et la culture nationale. Et on peut se poser cette question aussi pour la question de la langue. Et vous citez, pour aller très rapidement, une réflexion de Paul Ricoeur qui m'a absolument passionné dans votre livre à propos du sentiment national, qui fait le distinguo entre l'idem, c'est-à-dire le même, et l'ipsé, c'est-à-dire soi-même. Or, l'ipsé suppose un changement possible si l'on est fidèle à soi-même. Donc, ça permet la porosité, ça permet l'accueil, ça permet les migrations humaines et les migrations linguistiques.
Bon, on peut dire que ça permet tous les métissages, parce que nous sommes tous, lorsque nous avons suffisamment vécu, nous sommes tous le produit d'appartenances diverses et d'appartenances qui parfois même peuvent être contradictoires, mais entre lesquelles nous avons appris, bon an mal an, à arbitrer, à négocier. Donc, ce que je trouve merveilleux dans la description de Ricoeur, de l'ipsé et de l'idem, c'est que Ricoeur ne nous demande pas du tout d'être les mêmes, d'avoir une sorte de mêmeté qui essentialiserait nos vies. Mais il sait que nos identités sont pour une très large part narratives, c'est-à-dire que, quels que soient les changements que nous avons opérés au cours de nos vies et les appartenances diverses, parfois contradictoires, que nous avons contractées, nous sommes le sujet de toute cette évolution. Nous pouvons continuer à dire « je », c'est moi qui ai fait ça. J'ai appartenu au Parti communiste de façon éphémère, mais tout de même dans ma vie. J'intègre cet épisode un peu aventuré, peut-être pas extraordinairement réfléchi, au reste de mon existence, et je puis dire que c'était moi. Mais ça ne m'a pas bloqué ni fixé à ce moment de mon existence. Donc,
Parce que si on est fixé, c'est un repli, c'est un enfermement.
C'est du reste une de mes raisons d'être réticente à l'égard de cette fameuse identité française dont il fallait donner une sorte de définition essentielle. Tout ça en passant par la filière tellement française et tellement jacobine de descendre du pouvoir suprême à travers les préfets et les sous-préfets jusqu'à aux Français de base qui, eux, n'avaient au fond rien demandé, qui n'avaient pas besoin, je crois, de tout ça pour savoir qu'ils étaient Français, me semble-t-il.
Merci beaucoup Mona Ouzouf. Donc Portrait d'une historienne, ce livre d'entretien avec Antoine Debecq et Patrick Deville est édité chez Flammarion. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand et Yael Co, Stéphane Esli à la réalisation. Merci et à très vite.